On a l'impression que vous rasez les murs et que vous avez envie de disparaître.
Pourtant, vous avez assez de bagages professionnels pour savoir que dans cette situation, c'est ça que vous devriez faire.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Maud qui va se présenter. Alors bonjour et merci d'être au micro de ce podcast. Nous avons entendu avant le générique quelques phrases qui te parlent particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis surtout te présenter ?
Alors merci de m'accueillir ici. Alors je m'appelle Maud, j'ai 35 ans. Actuellement, j'ai deux casquettes. Donc d'une part, je suis bibliothécaire et d'autre part, je suis coach de vie. Je travaille de manière holistique et je suis également en formation pour être thérapeute psychospirituelle. Donc j'ai été détectée comme haut potentiel intellectuel quand j'avais 29 ans et autiste Asperger quand j'avais 31 ans. Et je me reconnais aussi dans
Merci
le profil
pour cette présentation. Alors peut-être comme de quelques années d'un... de différence entre la découverte du HPI et ça s'est l'autisme. Fait en deux temps. Comment ça s'est passé? C'est venu par après le questionnement ou c'est au fil des réflexions? Comment?
Alors, par rapport à l'autisme, le questionnement, c'est venu parce que, en fait, quand j'ai compris que j'étais neuro-atypique, j'ai commencé à fréquenter des groupes qui étaient neuroatypiques et parmi ces gens, il y avait des personnes qui étaient neurotypiques de plusieurs manières différentes. Et parmi ces personnes, il y avait entre autres des personnes qui étaient à la fois au potentiel intellectuel et autiste Asperger. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fini par me dire que j'avais des traits autistiques et que ce serait peut-être intéressant que je me pose la question. Du coup, je me suis effectivement renseignée de mon côté et je me suis complètement reconnue dans la description des femmes autistes Asperger avec un haut niveau de fonctionnement. Et plus tard, j'ai pris la décision de me faire tester pour avoir un vrai diagnostic et pour pouvoir me présenter comme telle et potentiellement avoir un papier en cas de problème.
On parlera du papier tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut changer justement les cas de problème que tu évoques? Pour personne, ça a changé ce côté. Quoi? Ou peut-être rien, je ne sais pas. Pour toi, de découvrir, de comprendre, c'est...
Alors, ça a changé tout. Non, ça a vraiment changé ma manière complète de voir le monde. À savoir que avant d'être au courant, j'avais un filtre à travers lequel je voyais le monde. Et qu'ensuite, je me suis rendu compte que ce filtre, c'était peut-être pas le bon. Et du coup, ça m'a permis de comprendre énormément de choses et de me repositionner. Mais pendant quelques mois, voire même quelques années, j'ai eu une période où accepter cette différence. Donc, tout d'abord avec le haut potentiel intellectuel, je pense qu'il m'a fallu un peu plus d'un an pour accepter que je l'étais et que je fasse un peu une sorte de recadrage dans ma manière de me voir et dans la manière dont je voyais aussi.
Alors, au-delà de la vie perso qu'on vient un peu d'évoquer, il y a aussi la vie pro. Alors, c'était intéressant, peut-être tu vas nous en reparler, le fait de papier en cas de problème, je pense que c'était peut-être lié à la vie pro, mais pas que. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que ça change dans ta vie pro? Est-ce que ça apporte des choses particulières? En fait, quel est ton rapport à la vie professionnelle? En quoi tu juges qu'elle peut-être atypique?
Alors, concernant ma vie professionnelle, donc là, je pense que c'est surtout la part autiste en moi qui a eu beaucoup d'impact au niveau du fonctionnement. Mais forcément, tout ce qui avait trait aux relations sociales, c'était très compliqué. Plus particulièrement au niveau des relations avec ma hiérarchie, parce que, outre le fait que je voyais beaucoup de choses qui me paraissaient pas logiques dans la manière de faire, il y avait aussi comment me comporter avec mes supérieurs, comment leur parler. Comment dire oui, même quand de toute évidence, les décisions, elles étaient pas forcément les meilleures. Et tout ça, en fait, dans lesquelles ça a été très compliqué de me positionner quand j'ai eu mes premières expériences dans la vie professionnelle. Parce que aussi au niveau de mon langage non verbal, de ma manière de parler, dans ma manière de regarder les gens dans les yeux, dans ma manière d'exprimer mon point de vue, il y avait des choses qui n'étaient pas toujours correctes dans la manière dont je parlais ou dans la manière dont je bougeais. Et ça,
D'accord, ça t'est retombé dessus. Je ne sais pas si tu veux en parler ou si tu as un exemple ou deux, peut-être pour que des personnes qui écoutent puissent se dire « Ah bah, je suis dans le même genre de situation » et comment justement tu as pu éventuellement les gérer.
Alors, pour commencer, un des premiers reproches qu'on m'avait fait, c'était qu'au niveau de ma conscience de moi, je n'avais pas toujours conscience des moments où j'avais les yeux tournés dans telle direction, ou encore il y avait des décalages entre les moments où les gens me parlaient, les moments où je leur répondais, les moments où il fallait sourire ou les moments où il ne fallait pas sourire. Et souvent, on m'a fait des reproches et je ne comprenais pas trop pourquoi, d'où ça venait, parce qu'on me disait de sourire, je souriais, on me disait de regarder les gens dans les yeux, je le faisais. Après, on me reprochait que je ne regardais pas comme il faut. Du coup, c'était très compliqué pour moi de me positionner.
Est-ce que par rapport à la vie pro ou à la vie perso, il y a d'autres choses que tu souhaiterais partager? C'est vrai que tu nous as dit au tout début tous les métiers, hein, finalement, que tu as. Alors, je ne sais pas comment tu arrives à les concilier. Pourquoi autant de choses différentes? Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve souvent sur des profils un peu atypiques. On fait plein de métiers différents, on a envie de faire plein de choses. En quoi ça te nourrit ou en quoi ça peut te fatiguer? Je ne sais pas.
Alors en fait, j'ai deux besoins qui sont assez contradictoires. Donc j'ai besoin de routine et j'ai besoin de variété. Donc la meilleure manière en fait que j'ai trouvée pour réussir à concilier ces deux besoins qui peuvent paraître contradictoires, ça a été d'avoir une routine différente chaque jour. Donc c'est pour ça que j'ai toujours slashé entre plusieurs métiers différents, parce que comme ça, chaque fois que j'étais à un poste de travail, ben j'avais ma routine à ce poste, mais le lendemain j'étais à un autre poste de travail. Et du coup, j'avais plus la même routine. Donc ça a été mes premières années d'expérience professionnelle. J'ai énormément slashé. Par contre, je suis aussi souvent arrivée dans des équipes avec lesquelles j'avais des succès, disons, variables en termes d'intégration sociale. Donc, autrement dit, il y avait des équipes avec lesquelles je m'intégrais très bien, ça se passait très bien. Il y a eu des équipes avec lesquelles c'était un peu moyen, il y a eu des équipes avec lesquelles ça se passait pas bien du tout. Et ça m'a toujours amené dans une certaine forme d'instabilité, parce que déjà, j'ai eu beaucoup de contrats à durée déterminée, donc je devais tout le temps chercher du travail. Et aussi, ben, chaque fois que j'avais un emploi qui avait l'air à peu près stable parce qu'il était en CDI, ça se passait pas bien avec une équipe dans au moins un de mes emplois, ce qui faisait que j'avais de nouveau plus assez d'argent et j'étais de nouveau en train d'essayer de chercher du travail. Donc c'est pour ça que à un moment donné, je me suis dit que j'avais peut-être envie d'être moins dépendante du salariat. Et c'est pour cette raison que je suis gentiment en train d'essayer de développer une activité comme indépendante, en tout cas comme indépendante partiellement, pour essayer d'avoir d'être moins dépendante, en fait, d'avoir un employeur, d'avoir une équipe avec qui ça se passe bien, et de devoir tout le temps faire plein d'efforts pour essayer de m'intégrer avec des gens avec qui je ne suis pas forcément tout le temps d'accord. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans une autre formation comme thérapeute et comme coach. Du coup, ça me permet aussi d'être un peu plus libre au niveau de l'organisation du temps, en tout cas sur les jours où je travaille comme indépendante. Aussi, au niveau du coaching, je travaille sur Internet. C'est vrai qu'être coach sur Internet pour une personne avec autisme, c'est assez confortable parce qu'il y a déjà, je suis chez moi, donc je suis dans un environnement connu. Et ensuite, j'ai moins de codes sociaux à respecter déjà au niveau vestimentaire. Donc j'essaye de faire bien en haut, mais dessous, on se tape. Et aussi, je peux m'asseoir comme je veux. Si je suis assise en tailleur, si j'ai une jambe repliée sous moi, si je suis en train de faire autre chose avec mes mains en dehors de l'écran, en fait, ça ne se voit pas. Et ça me permet d'avoir une certaine aisance et surtout de me sentir bien avec moi-même.
Bah merci, on comprend mieux en effet ce besoin-là. Si tu le souhaites, est-ce que tu es OK pour revenir sur ce que tu évoquais? Au tout début, tu évoquais une histoire de papier qui, en cas de problème, peut aider. Je pense que tu parles du fait d'avoir un diagnostic officiel qui puisse être, du coup, potentiellement une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Je ne sais pas, peut-être si tu peux nous en dire plus. Et pourquoi, justement, tu juges que ça, c'est bien peut-être ou pas de l'avoir sous le coude en cas de problème, comme tu dis, est-ce que... C'est déjà arrivé, est-ce que...
Alors en Suisse, il n'y a pas réellement de reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Enfin, on peut se faire, je crois, reconnaître comme handicapé, mais je n'ai pas vu énormément d'avantages, je dois dire. À part soit d'obtenir une rente à l'assurance invalidité, mais c'est difficile à obtenir. Et dans mon cas, ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais envie d'obtenir. Parce que j'ai envie d'avoir un travail, en fait, tout simplement. Donc, le papier, je l'avais fait, en fait, pour pouvoir justifier une certaine manière de fonctionner, certains besoins au niveau de ma sensibilité, au niveau de certaines difficultés que je peux avoir dans ma manière d'interagir, soit avec ma hiérarchie, soit avec mes collègues ou alors avec des clients quand il y en a. Maintenant, je dois dire qu'au niveau de l'expérience, je n'ai pas eu l'impression que ça m'ait énormément aidé. C'est le fait qu'actuellement, j'ai arrêté de l'utiliser.
Et ce fameux papier justement dont tu parles, comment tu l'as obtenu? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, notamment en Suisse, là où tu vis?
Alors, pour ma part, je l'ai obtenu en faisant des tests auprès d'un organisme qui était certifié pour poser des diagnostics d'autisme associés à un haut potentiel intellectuel.
HPI et autisme en même temps, c'est ça?
Oui, parce que sinon, en tant qu'autiste, on peut se faire dire qu'on n'est pas autiste juste parce qu'on regarde les gens dans les yeux ou parce qu'on est en couple ou parce qu'on est une femme ou des autres raisons de ce genre.
Oui, c'est vrai que notamment, d'ailleurs, sur les femmes, on est en train de changer peu à peu les statistiques, mais pour le moment, il y a environ, je crois, une femme testée pour 9 hommes hein, sur le sujet de l'autisme. Donc, c'est vrai que... et en moyenne, c'est une pour quatre pour le tout ce qui concerne la diversité cognitive. Donc, on a encore beaucoup beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet-là pour reconnaître les femmes et leurs différences, parce que bien souvent, elles sont gommées ou elles s'expriment différemment. Et il y a encore eu peu d'études ou peu d'intérêt sur ces sujets-là. Donc, tu as raison de le préciser. Merci.
Quand j'ai déclaré à certains de mes employeurs que j'étais autiste, ce qui s'est passé, c'est que soit... J'ai eu des employeurs qui étaient ouverts à l'autisme mais qui ne connaissaient rien, de sorte qu'ils m'ont traité ensuite plus sur les clichés qu'eux avaient sur l'autisme que sur la réalité de l'autisme, ce qui a fait que ça ne m'a pas aidée. Et j'ai eu un autre employeur qui a simplement du jour au lendemain décidé de me retirer toutes mes tâches, sauf la plus ennuyeuse, sans me demander mon avis, mais visiblement, je n'étais plus considérée comme apte à remplir ma fonction, alors qu'avant, j'y arrivais très bien. Et pour finir, actuellement, le seul employeur qui est au courant de mon autisme, c'est parce que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est un ancien professionnel de l'autisme et que je savais qu'avec cette personne, ça allait bien se passer. Ensuite, moi-même, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux au sujet de mon autisme, donc c'est pas non plus un secret, mais c'est simplement que je l'annonce plus officiellement.
D'accord, bah merci beaucoup. En effet, je pense que ça donne quelques précisions aussi sur ce sujet-là. Enfin, merci pour cette précision. Alors, on arrive au bout de l'épisode de ce podcast. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager, un conseil peut-être pour des personnes qui écoutent, qui se posent des questions ou leur entourage?
Pour moi, je pense que c'est intéressant de savoir qui on est, c'est intéressant de savoir comment on fonctionne, c'est intéressant de savoir comment fonctionne notre entourage, mais c'est aussi important de se servir de cette connaissance pour rester soi-même et de ne pas se suradapter à l'excès ou aux membres de l'entourage en disant quand l'extérieur nous dit tout le temps ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et c'est important de respecter les autres, mais c'est aussi important de se respecter soi, de rester soi-même, parce que sinon on ne peut pas avoir d'estime de soi en fait quand on n'est pas soi-même. Et ça, c'est vraiment le message que j'aimerais laisser, c'est de ne pas oublier de rester soi.
Merci beaucoup, en effet, je pense que c'est une belle fin, ne pas oublier de rester soi-même. Et bien, merci beaucoup encore une fois, Maude. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.